un cri à Dieu avant. Et le Seigneur est celui qui te donnera de ne pas couler, justement. Alors, au jour où Dieu crée l'homme, donc on va voir un petit peu ici. Donc, Dieu a créé l'homme avec son esprit, son âme et son corps. L'esprit de Prima, l'âme psyché, le corps Shima. Hein. Et l'esprit, c'est ce qui est en relation directe avec Dieu. L'âme, c'est le siège des sentiments, de la volonté et de l'intelligence. Et puis, il y a le corps, l'enveloppe extérieure. Voilà, ça c'est ce que Dieu a créé en nous. Nous sommes en trois parties, ou en deux parties. Partie matérielle, partie immatérielle, c'est l'âme et l'esprit. Hein, en trois ou en deux, ça marche. Voilà, alors nous sommes. Ce que Dieu désire, c'est que l'esprit de Dieu dirige notre esprit. Et notre âme s'aligne sur notre esprit et notre corps aussi. D'accord? Ça, c'est le modèle. Ça, c'est l'idéal. Alors, l'homme animal, le psychikos, après la chute, donc après le péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce n'est plus l'esprit qui prédomine dans la personne, mais c'est la chair. C'est la chair, parce qu'il n'y a plus de relation entre notre esprit et Dieu avec le péché. Et donc, c'est la chair qui domine. D'accord? Et donc, il y a une mort spirituelle parce que nous sommes soumis au péché et prisonniers du péché. D'accord ? Et bien sûr, Satan est derrière. D'accord ? Je vais mettre la couverture. Alors, ce que Dieu désire, c'est qu'il puisse y avoir une restauration de notre vie. Et Dieu, il est le réparateur des brèches, il est celui qui répare nos vies, il est celui qui change nos vies. Si nous étions esclaves du péché, il veut que nous devions esclaves de la justice par Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils afin de mourir à notre place, afin de nous donner la vie éternelle et le pardon de toutes nos fautes. Hein? Nous acceptons Jésus comme sauveur et Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Bien, nous sommes engendrés de Dieu. Engendrés. Donc, ça veut dire que nous naissons en Dieu, nous naissons d'esprit. Hein? Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, disait Jésus à Nicodème, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Et une fois que l'esprit vient, nous sommes régénérés, il y a une régénération dans notre esprit. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et cette nouvelle nature va porter le caractère de Christ. Nous recevons la justice et nous recevons la sainteté. Nous avons prié pour. Nous avons chanté des chants qui parlent de sanctification, de sainteté, de pureté. Dieu crée la sainteté en nous, la réalité. Et donc, c'est notre esprit maintenant, rempli du Saint-Esprit, qui va diriger tout notre être, qui va diriger notre âme, et qui va diriger notre corps. Vous voyez, un drogué, c'est même plus que... Oui, certains sont dirigés par l'âme. Par exemple, l'âme, c'est l'intellect. Il y a des gens qui vivent par leur intellect, ou leur volonté, ou leurs sentiments. On peut vraiment en arriver à être tributaire du corps, le corps qui a besoin de quelque chose. Ouais, une drogue, par exemple, c'est le corps qui va diriger. Qui va diriger l'âme, qui va diriger. Donc, ce que Dieu désire, c'est que ce soit notre esprit qui dirige notre vie entière. Et ça peut se faire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la vie de Dieu en nous. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi, disait l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20. Voilà, alors ma volonté, elle est soumise à Christ, mon intelligence et mes pensées, je vais amener toute pensée captive en obéissance de Christ, mes sentiments, je ne vais pas les laisser aller dans tous les sens, et je vais me conformer à ce que Dieu demande. L'homme charnel, qu'est-ce qui se passe pour plus charnel, si nous voulons vraiment vivre selon la chair, mais nous allons être un con. Je vais vivre comme un con. Pas parce que. Et bien, l'idéal, c'est que le Saint-Esprit fasse une œuvre profonde dans ma vie. Si en tant que chrétien, je me laisse diriger par la chair, je n'accomplirai pas le plein potentiel que Dieu désire. Je resterai un enfant dans la foi, un tout petit enfant qui a Jésus comme sauveur, qui lui pardonne ses fautes, mais il n'a pas Jésus, il ne connaît pas Jésus comme son Seigneur, le Maître, celui qui dirige sa vie. Donc, certaines personnes ont Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils ne peuvent pas grandir, ils vont rester des bébés, mais ils ne vont jamais grandir. Ça, c'est triste, hein, c'est vraiment pas la volonté de Dieu. Imaginons une famille qui a dans son foyer un bébé, et puis il va rester comme ça pendant 50 ans. C'est catastrophique, hein. Vous vous rendez compte? Voilà, comment peut-on reconnaître concrètement la chair? Mais à travers ce qu'elle produit, évidemment. La chair, elle produit. Elle produit des choses. Elle produit des œuvres. L'esprit produit des œuvres, mais la chair produit des œuvres. Et on va lire ensemble, si vous voulez bien. On va reprendre Galates. Donc, Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, on va relire. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des devoirs, des désirs, contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine, voilà, on vient aux œuvres de la nature humaine, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de tape et des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est les œuvres de l'esprit ici, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et donc, ici nous voyons donc la différence. Il y a la possibilité pour tout un chacun de porter soit les fruits de la chair, soit les fruits de l'esprit. Mais un chrétien né de nouveau devrait normalement porter les fruits de l'esprit, pas les fruits de la chair. D'accord ? Et quand on parle des fruits de la chair, il est évident que tous les fruits de la chair ne sont pas des fruits qu'une personne manifeste. L'un va manifester quelque chose, l'autre va manifester autre chose. Heureusement, la personne peut être taxée de manifester tous les fruits de la chair, par exemple. Donc, c'est souvent une chose ou l'autre. C'est là qu'on peut retrouver ce qui se passe dans les vies qui pratiquent ces choses. Bien sûr, tout on ne s'y trouve pas. Alors, il y a toutes sortes d'envies qui peuvent venir dans la vie des gens, la mauvaise envie de puissance, d'élévation, au détriment des autres, de paraître, le fait de paraître, d'avoir tout pour soi, ou de satisfaire exclusivement certains besoins du corps. Il s'agit là bel et bien de mauvaises envies, les convoitises. Et voilà, donc la chair elle travaille comme ça, elle opère par convoitise. Voilà, la chair est caractérisée par des envies exclusivement tournées vers nous, au détriment des choses de Dieu. Une personne qui est charnelle n'est pas forcément une personne en qui toutes ses œuvres opèrent, mais donc ses actes, ses paroles vont manifester une chose ou l'autre. Il y a un désir permanent de se satisfaire soi-même, d'accord ? Ou de se mettre soi-même en avant. Voici la racine de la chair. La racine de la chair, c'est un bon baromètre pour savoir si nous sommes charnels ou pas, hein, de voir s'il y a encore des choses desquelles nous avons parlé qui pourraient être encore là. L'apôtre Jean définit la chair dans trois domaines. Il y a trois domaines où la chair exerce un impact dans la vie des gens. Alors, on voit dans Jean. Voilà, Jean, chapitre 2, verset 15. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair a des désirs contraires, c'est pas ça. C'est pas grave. Je me suis trompé dans la référence. On va aller la lire. Ça, c'est ce que Paul nous a écrit. On va aller voir dans 1 Jean, si vous voulez bien. Voilà. Donc, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, il y a trois choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà, hein, c'est déjà les trois tentations que Jésus a eues dans le désert. Hein, la première, c'était la convoitise de la chair, puis transforme les pierres en pain, hein, on verra qui tu es. Hein, la deuxième, la convoitise des yeux, hein, regarde tous les royaumes, c'est à toi si tu te prosternes. Et la troisième, c'est l'orgueil de la vie. Jette-toi dans le bas du temple et voilà, les anges viendront te porter sur leurs mains, etc. Donc le Satan a essayé de faire tomber Jésus dans l'une de ces trois tentations. Donc le monde est comme ça, nous devons être vigilants, très vigilants. Et un homme, William Lowe, un chrétien puritain ayant vécu au XVIIe, XVIIIe siècle, a écrit ceci, « Le monde est maintenant un ennemi plus grand pour le chrétien qu'il ne l'était au temps apostolique. » Au temps apostolique, il y avait des persécutions. C'est clair, des persécutions terribles. Il y a toujours des persécutions pour l'Église persécutée. Hein. C'est toujours vrai. Mais pour nous, en tout cas ici, c'est un plus grand ennemi. Il y a un plus grand ennemi. Donc, ce sont les richesses, les honneurs, les récompenses, la protection. L'ennemi a changé d'apparence. Et donc, le monde avec toutes ses convoitises, avec la société de consommation qu'on a, attire les gens. Attire vraiment les gens et c'est le monde qui a tendance à rentrer dans le cœur des gens. Si on ne fait pas attention, on se fait happer. Hein? Il y avait des persécutions terribles au départ de l'Église, mais aujourd'hui, il faut savoir que dans nos pays, ça semble facile, mais le monde, et c'est un défi de lutter contre cet esprit du monde pour qu'il ne prenne pas la victoire. Hein? Des chrétiens qui commettent des adultères, c'est vraiment le monde qui est rentré dans leur cœur pour en arriver à des choses pareilles. Ça, c'est clair. Alors, la parole ne nous laisse pas de choix. Si l'amour du monde remplit notre cœur, même si nous sommes enfants de Dieu, l'amour du Père n'est pas en nous. Ça, c'est grave. Hein? Parce qu'il y a un antagonisme entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. On ne peut pas dire j'aime le monde et j'aime Dieu. Dimanche matin, j'aime Dieu et puis j'aime le monde. C'est pas grave. On va sauver les deux, ça marche bien. Ça ne marche pas. Si j'aime Dieu, je ne peux pas à la fois embrasser le monde. Je ne peux pas avoir le même esprit et le même état d'esprit que le monde et avoir l'esprit de Jésus. Et tout bien ensemble. Ça ne marche pas. Et il y a des choix qu'il faut faire. C'est ça la sanctification. Dieu nous a mis à part. Il nous a mis à part. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes plus des gens du dehors qui vivent n'importe comment selon la chair. On ne vit plus n'importe comment. Vous savez pourquoi ? Parce que nous avons reçu l'Esprit. Nous avons reçu l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'Esprit qui remplissait Jésus et qui lui a permis de tenir par rapport aux manœuvres du diable. Il n'a pas péché contre Dieu. Et il nous est donné de ressembler à Jésus, de recevoir sa puissance, sa force pour lutter et être vainqueur. En fait, nous sommes déjà vainqueurs. C'est ça qu'il faut savoir, c'est se rappeler que nous sommes déjà plus que vainqueurs, parce que lui est vainqueur sur la mort, il est vainqueur sur le péché, il est vainqueur sur le diable, sur les tentations, et Christ est en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ qui est en nous, et qu'il a déjà remporté tous les combats, nos ennemis spirituels, je vais dire comme ça. Comment est-ce que nous serions encore à la traîne en train de ramer pour s'en sortir? Nous avons reçu la puissance pour régner sur le péché et ne pas laisser le péché avoir la victoire sur nos vies. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. Il nous a rendus à la vie et il ne nous a pas simplement rendus à la vie pour que nous retournions un peu après. Il nous a donné la puissance pour demeurer en lui, ancré dans sa parole. Et ça demande de la prière, ça demande de venir confesser ses fautes et de reconnaître qui nous sommes. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, Dieu ne pourra rien faire. Vous savez, il y a des gens qui restent comme ça parce qu'ils pensent que voilà, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Dieu ne sait rien faire si on ne se repent pas. Et Jésus, il a déjà accompli l'œuvre à la croix. Mais ça se produit dans nos vies à partir du moment où on plie les genoux devant Dieu. Si nous ne reconnaissons pas que Christ a accompli ce sacrifice, si nous ne reconnaissons pas que nous en avons besoin, comment est-ce qu'il pourrait devenir notre Seigneur? Notre Sauveur, comme ça, parce que voilà, il est mort pour le pardon de l'humanité. Et voilà, moi, je continue à vivre ma petite vie, mais il est mort pour l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça. Les chrétiens en général. Hein? Jésus est mort pour l'humanité. C'est formidable. Il prie pour nous au ciel, je n'ai plus besoin de rien faire. Et je fais ce que je veux, en fait. Mais ça ne marche pas. Celui qui vit selon la chair va finir par mourir. Et ce sera la mort éternelle. Celui qui veut vivre selon la chair, il prouve que par sa vie, que l'œuvre de Dieu est caduque pour lui. Donc, si nous ne rentrons pas dans les promesses de Dieu, il n'y a pas de salut. Le salut est opéré et s'opère dans nos vies par la foi. Et par la foi, nous recevons l'Esprit. Et par la foi, nous recevons l'amour. Et par la foi, nous recevons la puissance de résister au diable. Et par la foi, nous recevons la puissance pour résister au péché dans nos vies, à ne plus vivre selon la chair, mais à vivre par l'Esprit. Extraordinaire. Mais si nous n'y mettons pas notre foi, rien ne se produira. Il y a des gens qui disent « Oh, mais Dieu n'a rien su changer en moi. » Mais où est le problème? Du côté de Dieu ou de leur côté? Où est le problème? Le problème, c'est quand on met en doute la parole de Dieu. Si nous mettons en doute la parole de Dieu, elle est inopérante. Si nous mettons notre confiance en Dieu, il opère par sa parole. Parce que Dieu est fidèle. Il a donné une parole et il est fidèle pour y répondre. Quand nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous faisons actionner la main de Dieu. La puissance de Dieu est en action par la foi dans ses promesses. Si nous laissons tomber la promesse, mais il n'y a plus aucune puissance. Ce n'est pas des beaux mots. Ce n'est pas des mots qu'on met derrière soi quand on sort du culte. C'est les mots des promesses de Dieu, c'est ce qui nous fait tenir. C'est ce qui va nous permettre de continuer à aimer des gens qui ne sont pas aimables. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous permettre de vivre quand nous souffrons et de continuer à servir le Seigneur. C'est ce qui nous permet de nous réconcilier avec notre conjoint quand il y a un problème. Pourquoi ? Parce que nous avons choisi d'aimer et parce que Dieu est avec nous. Et quand nous choisissons d'aimer et de continuer, Dieu est avec nous et nous donne la force de résister. Résister à toutes les manœuvres, à toutes les subtilités de l'adversaire, à toutes les ruses. Nous prenons la victoire sur l'amertume, nous prenons la victoire sur la haine. Pour quelqu'un qui est en Christ, il résout son problème, il résout ses problèmes. L'Église persécutée, ils ont de quoi avoir un esprit de vengeance, de la haine, etc. Ils n'ont pas tout ça parce qu'ils sont en Christ. Qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à pardonner. Les femmes dont on a assassiné le mari, ils apprennent à pardonner. Pas avec les mots comme ça, je te pardonne, mais... Non, ils apprennent à pardonner, à se libérer en Dieu, et Dieu guérit leur âme, troublée, blessée. Et s'il faut que Dieu console leur cœur pendant 365 jours par année, parce que c'est le cas, il le fait, il n'y a aucun problème. Dieu est là avec celui qui a trouvé son refuge en Dieu. Alors, le problème... La chair s'oppose toujours à l'esprit et veut nous faire prendre une mauvaise direction opposée au plan de Dieu. Ouais, des directions différentes. La chair et l'esprit, c'est des directions différentes. Le chemin de la facilité, le chemin que la nature humaine va prendre, c'est pas le chemin de Dieu, forcément. Le chemin de Dieu, on le trouve quand on vient à la croix. Qu'on vient à la croix, qu'on s'humilie devant Dieu, quand on demande pardon pour nos fautes, quand on reçoit l'esprit de consolation, quand on reçoit l'esprit de Dieu qui nous donne une direction, qui nous donne de voir clair. Comment s'appliquer au mieux un discernement qui nous permettrait de ne pas nous opposer au plan de Dieu. C'est ça aussi. Hein. C'est Dieu a un plan et je peux m'opposer à ce plan-là. Il y a des tas de gens, il y a un plan merveilleux pour chaque personne. Pour chaque personne, c'est extraordinaire le plan que Dieu a pour vous. Et je peux vous dire, chacun dans cette salle, et pour les gens du monde aussi, parce que Dieu les aime tous, il y a un plan parfait. Et on peut passer à côté. C'est incroyable. Donc il y a un plan, Dieu a un plan, mais il n'y entrerait pas forcément. Ou vous y êtes entré, ou vous n'y êtes pas encore entré, ou vous êtes dedans. Mais il y a un plan merveilleux. Mais si vous n'écoutez pas, si vous n'obéissez pas, si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, vous ne pourrez pas l'accomplir. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, il y a quatre clés pour marcher selon l'esprit. Quatre clés. J'aime bien les clés. Ça permet d'ouvrir une maison, ça permet d'ouvrir la voiture. Quelqu'un qui détient mes clés, il peut entrer dans ma maison, il peut aller où il veut. Il peut aller dans ma voiture, il peut la prendre s'il veut. C'est ce qu'il veut avec les clés. C'est extraordinaire. Hein? Avoir les clés. Alors, première clé, bien être rempli du Saint-Esprit. Si je veux faire non la volonté de la chair, mais la volonté de Dieu, Mais je dois être rempli du Saint-Esprit, comme un verre qui se remplit jusqu'à rabord, jusqu'à déborder. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous faire des... Celui qui prend en moi des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive rempliront cette personne au point qu'elle déborde. La coupe déborde, dit le psalmiste au psaume 23. Alors Dieu veut vous faire déborder. Alors, est-ce que nous avons soif d'être remplis du Saint-Esprit ? C'est une des clés. C'est super important. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je suis rempli d'autre chose. Enfin, si je suis rempli d'autre chose, ben c'est forcément, j'ai mes attentions ailleurs. Et là, je vais passer carrément à côté de ce que Dieu désire. Je serai dans mes pensées à moi. Mais si je suis rempli du Saint-Esprit, alors je vais pouvoir entendre la voix de Dieu. Et comment être rempli du Saint-Esprit ? C'est passer du temps avec Dieu. Si je ne passe pas de temps avec Dieu, si je ne le prie pas, si je ne le recherche pas dans sa parole, comment est-ce que je pourrais être rempli du Saint-Esprit ? Ce sont des mots, ça ne sert à rien du tout. Mais si je passe du temps avec Dieu, Jésus, il passait du temps avec son Père. Vous pourriez dire, oui, mais Jésus n'a pas besoin de ça. Hein. Lui, il est plus de Dieu, il n'a pas besoin. Il est plus fort que nous. Etc. Mais en tant qu'homme, puisqu'il est venu sur la terre, il a souffert. Et il a dû prendre du temps avec son Père. Parce qu'il a vécu dans un corps comme le nôtre, qui peut être fatigué. Il a vécu dans un corps avec des limitations. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui vivait à la droite du Père, qui a créé les cieux et la terre, qui se retrouve tout d'un coup limité, comme nous. Nous sommes limités. Des fois, on est fatigué, on n'en peut plus, ou quoi que ce soit, je ne sais pas, tous les problèmes, on peut éventuellement être tenté. On est souvent tenté. Alors, comment est-ce qu'on peut résister si on ne prie pas ? Priez. Vous n'entriez pas dans la tentation de Jésus. Si on ne prie pas, si on lit par la parole, si on ne prend pas les armes de Dieu, les promesses de Dieu, comment est-ce qu'on va pouvoir lutter dans nos mauvais jours ? On va se faire défoncer, on va se faire avoir. Il y a des gens qui disent « Ah oh, mais j'ai de bonnes raisons, j'ai pas le temps, parce que j'ai ci, j'ai ça. » Si vous n'avez pas le temps, vous considérez donc que passer du temps avec Dieu n'a pas beaucoup d'importance. Après beaucoup d'autres choses, ça devrait être une priorité. Chercher premièrement le royaume de Dieu, et alors Dieu vous donnera. Obéir à Dieu, au Saint-Esprit, à la parole de Christ. Voilà une deuxième clé. Obéir à Dieu, c'est tellement important d'obéir à Dieu. L'obéissance. Et si je suis animé de l'Esprit Saint, alors je vais pouvoir obéir. Parce qu'il faut d'abord entendre. Si mon cœur est déjà fermé, comment est-ce que je pourrais obéir ? Il faut d'abord que mon cœur soit ouvert aux choses de Dieu, et je vais entendre. Il faut d'abord entendre. Hein? Parce que ce n'est pas toujours évident d'obéir quand on a entendu. Jonas, il avait entendu la voix de Dieu, mais il n'a pas obéi. Hein? Non, il est parti dans l'autre direction. Entendre Dieu, c'est génial, on pourrait se vanter. « Waouh, j'ai entendu Dieu !» Dieu va parler. Et alors, oui, est-ce que tu obéis ? Il n'y a pas des choses que Dieu nous demande. Est-ce qu'on obéit ? Donc, entendre, c'est merveilleux. Hein, comme Samuel disait à Dieu, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » On devrait tous les jours dire ça. « Parle, Seigneur, ta servante, ton serviteur écoute. » Puis Dieu s'attend à ce que nous obéissions. Il s'attend à ce que nous demandions la sagesse pour obéir comme lui voudrait. Pas à notre monde, à notre façon, mais à sa façon à lui. Et donc, vivre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il ne suffit pas de la lire, il ne suffit pas de la connaître, il ne suffit même pas encore seulement de la programmer, il faut aussi la vivre. La programmer, c'est encore un étage au-dessus, mais il faut aussi la mettre en pratique, la vivre, jour après jour, vivre de la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vivre de la parole de Dieu. C'est important. Et puis, une autre clé, c'est aussi s'humilier, vous savez, par le jeûne et la prière. Notre corps peut finalement nous suggérer beaucoup de choses. Et on peut répondre aux attentes de notre corps. Mais on doit être maître de cela. On doit être maître de cela. Ce n'est pas notre corps qui va diriger l'histoire, que ce soit au niveau de l'appétit, hein, que ce soit de manger, de boire, soit autre chose. Ce n'est pas notre corps qui doit nous dire ce que nous devons faire. Et donc, c'est bien, à certains moments, d'avoir des temps de jeûne et prière. Ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de faire ça. Mais c'est une suggestion de la parole de Dieu. Lisez Ésaïe 58. Vous verrez que le jeûne est préconisé pour justement être plus clean avec Dieu, mieux entendre la voix de Dieu, mieux avoir une intuition d'esprit, de pouvoir ressentir ce que Dieu veut nous dire.
Je crois que c'est important. Voici le genre de jeûne que je préconise, Ésaïe 58, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens d'esclavage, renvoie libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Donc il doit y avoir plus d'amour en nous, nous qui sommes si égoïstes. Et nous avons besoin de jeûner pour mettre fin à des choses. Nous voulons avoir des victoires sur nos vies. Il y a des pensées récurrentes, il y a peut-être des habitudes récurrentes. Des choses que nous faisons que nous n'aimerions pas faire. On a entendu là, notre frère qui disait, quelquefois on dit des mots qu'il ne faut pas. Je me rappelle, à un certain moment, je disais des jurons, quoi. Les jurons, je me fâchais. Et puis, je constatais que ça n'arrive pas, ça. Au début de ma vie chrétienne. C'était vraiment. Et chaque fois que j'étais un petit peu énervé, ça se produisait. Et j'ai demandé au Seigneur, mais aide-moi. Vraiment, je ne veux plus m'énerver, déjà. Et je ne veux plus, en tout cas, si je suis énervé à un moment donné, dire des grossiers mots. Non, des jurons. Et le Seigneur m'a entendu, il m'a aidé à surmonter ce problème. Et j'ai pu vaincre, comme j'ai pu vaincre d'autres problèmes dans ma vie, progressivement. Alors, peut-être que tout ne vient pas d'un coup et que nous n'allons pas devenir un petit saint en une demi-heure. Mais les choses vont se faire progressivement. Je comprends la parole de Dieu, je la proclame. Et vraiment, je prie par rapport à cette promesse pour qu'elle devienne mienne et qu'elle s'inscrive dans mes comportements, qu'elle s'inscrive dans mes habitudes. Et je ne vis plus autre. Je vais commencer à vivre différemment, à la ressemblance de Jésus, selon le caractère de Jésus, selon les sentiments de Jésus. Hein? On va vaincre des pensées qui viennent dans notre tête. Et des fois, des pensées mauvaises qui peuvent venir. Donc, nous allons vaincre aussi ça. Et progressivement, nous allons avoir des victoires sur tous les aspects de notre vie. Jeûne et prière. Voilà. Alors, marcher dans l'amour. Évidemment, ça, c'est une clé. Marcher dans l'amour. Marcher par l'esprit. Et la marche par l'esprit, c'est aussi une marche par l'amour, dans l'amour. Puisque l'amour, c'est une caractéristique du fruit. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, l'amour. Hein, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi et tout ce qui est en accord avec Dieu. Et donc, l'amour est tellement important de vivre dans cet amour-là, les uns avec les autres, et ça se passe au niveau familial. Parce que le plus difficile, c'est là où nous vivons, avec les gens avec lesquels nous vivons. C'est là où on peut manifester l'amour. C'est facile d'habiter tout seul sur. Problème avec personne, mais quand nous sommes avec d'autres, c'est là où le problème arrive. Dieu est amour, marcher en Dieu, c'est marcher dans l'amour, évidemment. Si Dieu est amour et que j'ai Dieu dans ma vie, ben, je vais marcher dans l'amour. Merci. Alors, c'est tellement important de réaliser qu'être assujetti à sa chair. Je pense que c'est Géraldo qui parlait que quelquefois on peut traîner des boulets derrière soi. Hein? Boulets de canon. Et la chair, elle nous fait traîner des boulets. Elle nous fait traîner des boulets. Alors, vous voudriez poser des actes spirituels alors que vous traînez des boulets. Des fois, on veut gagner le monde, on veut faire du bien à plein de gens, on veut gagner le monde à Jésus-Christ, mais j'ai un boulet qui tient encore. C'est trop dur. C'est trop dur. Donc, Dieu veut vraiment nous libérer de tout boulet. De tout ce qui nous entrave. Et c'est au niveau de la chair que les boulets se trouvent. C'est comme quelqu'un qui cherche à s'élever, mais qui n'y arrive jamais, car la personne retombe toujours du poids de sa chair qu'il tire vers le bas. Le poids de la chair, le boulet, il nous traîne toujours vers le bas. On est toujours entraîné vers le bas. Hein? Alors que Dieu veut nous conduire vers le ciel. Il nous attire vers le ciel. Mais la chair, elle nous attire vers le bas. Alors, si je désire maintenant vivre par l'esprit, c'est possible. Et là, Dieu va me donner la victoire. Si je réalise dans ma vie qu'il y a des boulets qui traînent derrière moi, qui me font descendre, je veux réaliser aussi que le Seigneur, il tend sa main pour que je puisse mettre ma main dans sa main pour me tirer vers le haut et couper ce boulet. Qui peut être à mon pied ou à mon cœur, à mes pensées ou n'importe où. Marcher selon les voies de Dieu et nous ne serons plus sous le diktat de la chair. C'est comme une dictature, la chair. C'est ce qui nous emprisonne, c'est ce qui nous empêche. Alors, il y a deux attitudes possibles. Marcher par l'esprit, ça c'est la première chose. Christ vit en moi, règne sur ma vie, mon ego est détrôné. C'est la vie en abondance, je vais porter beaucoup de fruits, mes activités vont s'harmoniser avec le plan de Dieu. Vous voyez, dans la vie de quelqu'un, soit c'est moi qui règne, ça c'est la chair, quand moi est assis sur le trône de mon cœur, et le moi alors attire toutes les œuvres de la chair, si je donne la place de Seigneur dans ma vie à Jésus-Christ, c'est lui. Alors, je pense qu'on a deux attitudes. Voilà. Marcher dans la chair, hein, c'est quand c'est moi, Jésus-Christ est détrôné, je dirige ma vie comme je veux, les deux de la chair sont évidents, et ça amène souvent discorde et frustration. Mais quand je vois Christ régner dans ma vie, c'est différent. Le moi cède sa place, c'est Christ qui prend la place, et alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a une vie en abondance, on va porter du fruit pour la gloire de Dieu, c'est totalement différent. C'est un choix, il faut faire un choix. Est-ce que je vis selon la chair ou est-ce que je vis selon l'esprit? Et c'est un choix qui est possible pour nous si nous croyons, si nous avons la foi, si nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous sommes nés de nouveau, nous lui appartenons, nous sommes un enfant de la famille de Dieu, eh bien, nous avons la puissance de régner selon l'esprit, de régner sur le péché, de régner sur la mort, de régner sur le mal, comme Jésus a régné sur le mal. Marchons sur la terre avec l'esprit d'une manière intentionnelle et pratique. Je crois que c'est tellement important de marcher dans l'amour, mais de marcher sur la terre d'une manière intentionnelle. Parce que ce n'est pas seulement une connaissance biblique, une connaissance théologique, une connaissance de la Bible seulement, mais c'est une connaissance pratique. Dieu veut que nous expérimentions sa parole. Sa parole ne doit pas rester au niveau de la Bible. Elle doit se transposer dans nos vies, dans nos actes. Et bien sûr, ça devient intentionnel. Je marche donc intentionnellement par l'esprit. Ça veut dire que, d'une manière pratique, je veux vivre Christ au quotidien. Ça veut dire que dans toutes mes relations, à l'intérieur de moi, comment je vais penser? On a tous des tendances. Hein. Certains ont une tendance joyeuse, comme ça, enthousiaste, comme ça, dès le matin, et ici. Et d'autres, ils sont déjà en train de murmurer les mauvais trucs qui ne vont pas. beau, c'est mieux, hein. Et évidemment, c'est si la journée commence comme ça, je me rappelle de tous les trucs qu'on m'a fait mal, etc. Et il commence à y avoir des paroles négatives qui commencent à sortir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est la chair ou l'esprit? C'est la chair. Je dois amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette pensée-là, non, je ne veux pas qu'elle commence à m'embrayer sur des paroles nocives, qui vont être nocives pour moi, qui vont être nocives pour les autres. Et donc, je vais être attristé tout de suite, la tristesse va venir me gagner. Et est-ce que c'est la volonté de Dieu? Que j'ai des pensées mornes, tristes, et que j'arrive à être déprimé, alors que je suis un enfant de Dieu, et boum, voilà, il y a déjà des mauvaises pensées. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? De prendre le contre-pied, de commencer à louer Dieu, de commencer à proclamer la parole de Dieu. Et je vais changer mon environnement, je vais changer mon atmosphère. Je ne vais pas permettre au diable de venir encore avec des pensées qui vont m'assiéger. Peut-être moi aussi, des fois on collabore, la chair elle collabore avec l'ennemi, elle est d'accord avec, hein, quand on pense des choses négatives, on collabore. Hein. Je ne veux plus collaborer, Pas de collaboration avec l'adversaire. Ça veut dire que mes pensées vont être un havre de paix, vont être un palais de la gloire de Dieu, un palais pour la louange, pour l'adoration. Je vais penser comme Dieu pense. Je vais commencer à penser comme Dieu me parle dans sa parole. Et mes pensées vont être habitées par Dieu. C'est différent. Ça, c'est extraordinaire. Certains ont des problèmes avec les pensées. D'autres ont des problèmes avec les paroles. On dérape. On dit des choses, on blesse. Et ça, c'est dommage de blesser les autres. On blesse des fois des gens qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup et qu'on aime tout simplement. Mais ce n'était pas notre volonté, ça faisait que c'est pas qu'on doit dire, demander pardon. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la chair. C'est la chair qui blesse. Fais pas attention. On dit directement ce qu'on pense, du tac au tac, et paf, on blesse. Et on s'étonne que les gens ne nous pardonnent déjà pas, etc. Mais il faut du temps pour guérir les cœurs blessés. Hein. Il faut faire attention de ne pas se blesser. Hein. On se blesse soi-même. Des fois, le péché nous blesse nous-mêmes. Et on blesse les autres, bêtement. Et donc, d'une manière pratique, c'est important, dans toutes les relations familiales. Dans les relations entre frères et sœurs, très important. Et alors là où personne ne voit, là où je suis seul, dans ma voiture, devant l'ordinateur, devant la télé, que je sois à gauche ou à droite, en voyage n'importe où, mais c'est Christ qui doit être servi en premier. Et c'est à ce moment-là, quand je suis seul, que je dois penser, est-ce que je vais vivre par la chair, selon la chair, ou selon l'esprit? Comment est-ce que je vais vivre? Je crois que c'est tellement important. La marche, elle exige la continuité. Vous savez, vous marchez un pas devant l'autre, et elle exige la continuité. C'est important. Quelqu'un qui ne marche pas, toute une marche, d'accord? Il y en a qui font plus, hein? Une marche de bord même 100 km. Hein? Donc il faut faire des pas. Et Paul, on voit dans les actes qu'il avait décidé de ne pas prendre de bateau. Il avait décidé de faire un grand tour à pied. Là, Dieu lui montrait qu'il fallait qu'il marche. Il devait marcher. Il devait prendre un grand temps seul dans la prière, dans la méditation, seul dans la marche. Voilà, c'est pas pourquoi il. Voilà, c'était quelque chose de particulier que l'Esprit lui avait montré. Hein? Marchons avec Dieu. Je crois que c'est important, surtout dans la continuité. Et vous savez, la continuité, c'est prier jour après jour. C'est ça, marcher par l'Esprit. Je lis la parole de Dieu aujourd'hui, mais demain aussi, et après-demain aussi, et après-demain aussi, je prie tous les jours. Je marche dans la continuité de l'Esprit, c'est. Je suis en mouvement par l'Esprit, je marche par l'Esprit, donc je lis la parole jour après jour, je prie jour après jour, je mets en pratique jour après jour ce que j'ai vu dans la parole de Dieu. c'est pas je marche un pas, j'arrête, bon, j'ai fait un pas.
Hein?
Non, moi j'arrête.
J'ai fait un pas, voilà.
Non, je marche. À tous les instants, je continue. C'est une continuité. C'est une continuité, un petit peu tous les jours. Et ceux qui marchent avec Dieu, tous les jours, ils grandissent. C'est comme ça qu'il y a une note de croissance. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand je marche dans la continuité, je marche dans la parole, je marche dans la prière, je marche dans la communion fraternelle, je marche dans l'obéissance à l'esprit, à la parole, je marche dans l'amour. C'est un petit peu, tous les jours, un petit peu à la fois, tous les jours, et je grandis. Et je vais devenir... J'étais un bébé, je suis un enfant spirituel, je deviens un ado spirituel, je deviens un jeune spirituel, je deviens un adulte spirituel, d'accord ? Et capable d'enfanter spirituellement, qui est beaucoup de reproduction, de génération de disciples au travers de ma vie. Parce que je parle du Seigneur aux autres, et j'attends le retour du Seigneur, je sais qu'il revient bientôt. Même si je souffre, même si je passe des moments durs, je sais que Jésus revient bientôt. Et je marche vers son retour. Et je marche vers l'accomplissement des promesses. Un jour, je serai avec Dieu. Comme Enoch. Enoch qui a marché avec Dieu pendant 65 ans, puis il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Excusez-moi. 300 ans. Et Dieu l'a pris pour être avec lui. Il a marché avec Dieu. Alors, marchons avec le Seigneur. Marchons avec le Seigneur jour après jour. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Nous allons prier. Seigneur, merci Jésus parce que tu es bon, Seigneur. Tu veux nous aider à marcher par ton Esprit. Nous ne voulons pas marcher par la chair, Seigneur. Nous voulons marcher par l'Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, la chair ne sert de rien. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit la chair qui prenne le contrôle sur nos vies. Nous ne voulons pas retourner à ce que nous avons vomi, mais nous voulons rester fidèles dans tes promesses. Merci parce que tu es exigeant, mais merci parce que nous avons besoin de tes corrections aussi sur cette terre pour un jour entrer dans ta gloire.